Bonjour, en ce samedi après-midi, on a une rencontre avec François Rouillet. François Rouillet, vous avez sans doute vu et son exposition peut-être en vous baladant dans les Utopiales. Puis il vient de sortir un roman qui s'appelle Métaquine. Mais juste avant, pour présenter François, membre fondateur et premier président de l'association des Amis de la Maison d'Ailleurs. La Maison d'Ailleurs, c'est le seul musée de science-fiction qu'on est dédié à la science-fiction qu'on a en Europe, qui est à Yverdon-les-Bains en Suisse. François est aussi illustrateur, d'où cette exposition. On se souvient notamment qu'il y avait eu un recueil en septembre 2002, déjà à l'Atalante, qui s'appelait Après-demain, sans vue imprenable sur le futur. Il a aussi signé un livre qui s'appelle 100 mots pour voyager en science-fiction, une sorte d'encyclopédie. Tu pourras peut-être nous parler et puis on discutera un petit peu de Métaquine. Peut-être une première question sur les débuts. Oui, n'importe lequel, François. Qu'est-ce qui t'a amené vers la science-fiction ? Tu étais déjà un gros lecteur enfant. Comment c'est venu tout ça ?
Alors, il paraît que mon tout premier dessin que ma grand-mère avait précieusement conservé représentait les animaux qui vivaient dans la Lune. Donc, voilà, ça répond à ta question.
Et quelles sont les œuvres ensuite qui t'ont un petit peu marqué peut-être plus jeune ou adolescent, c'était plutôt le cinéma, la littérature ?
Non, pas tellement le cinéma parce que j'y allais relativement peu, on n'avait pas la télé, donc ou on a eu tardivement ou par épisode. Non, c'était plutôt, je dirais, la bande dessinée avec Hergé, bien sûr. Et puis ensuite, ça a été Bob Moran. Après Bob Moran, ça a été la revue fiction, Le Fleuve Noir. Et puis ensuite, j'ai la collection J'ai lu de Sadoul et tous les grands classiques de la science-fiction. Et puis, j'en ai pas démordu. Voilà. Ça a continué sur la lancée. Disons, sur le plan visuel, disons, il y a quand même eu quelques chocs comme ça qui m'ont un peu. Qui m'ont donné des grandes claques et qui m'ont laissé abasourdi pendant quelques temps. Et qui m'ont profondément marqué, c'est par exemple le film 2001, l'Odyssée de l'espace, particulièrement les dernières images. C'est par exemple les premières planches de Druyet dans le journal Pilote. C'est la découverte aussi des aérographies de Hans-Rudi Giger un peu plus tard. Bref, il y a eu quelques grandes émotions comme ça. C'était le Giger encore d'avant Alien. Donc c'était une découverte absolue. Et puis, bien sûr, au niveau littérature, j'ai plongé assez tôt dans la marmite dickienne et je n'en suis jamais ressorti. Donc Dick reste quand même la référence numéro un pour moi en matière de littérature de science-fiction. Mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour des auteurs comme Frank Herbert, comme Saïmac. Et dans les francophones, j'ai beaucoup aimé les livres d'Elisabeth von Harbour ou par exemple aussi les livres de Damasio, certains grands jurys aussi, et puis des ouvrages peut-être un peu plus anciens, beaucoup de nouvelles, Rony Aîné pour commencer, pourquoi pas. Il y en aurait tellement à citer que voilà, il faut pas prendre ça comme quelque chose d'exhaustif, mais juste quelques exemples parmi d'autres.
Est-ce qu'il y a beaucoup de citations, enfin il y a beaucoup d'œuvres que tu cites, est-ce que ça veut dire que la science-fiction t'a un petit peu accompagné comme ça toute ta vie jusqu'ici?
Oui, je pense que j'ai toujours gardé un contact très étroit avec l'actualité de la science-fiction. Comme j'ai écrit un essai sur le thème des drogues et de la toxicomanie dans la science-fiction, que ça a été aussi l'objet d'une exposition qu'on a vue d'ailleurs ici aux Utopiales il y a quelques années de ça, je me suis aussi plongé dans la lecture un peu plus ciblée de certains thèmes. C'est là que j'ai redécouvert des œuvres comme par exemple la Callocaïne de Karin Boyle, les livres de Huxley, qu'est-ce que je pourrais citer encore comme livre important, le Congrès de futurologie de Stanislas Lem par exemple, pour citer quelques œuvres traitant du thème de la drogue et de la science-fiction, sans oublier bien sûr tous les ouvrages de Dick, et qui m'a un peu focalisé pendant quelques années sur cette thématologie. Et puis ensuite, ayant commencé à écrire, j'ai un petit peu décroché en matière de frénésie de lecture parce que c'est difficile d'écrire assidûment et de lire assidûment dans le même temps. Et puis en plus, comme je suis à moitié écrivain, à moitié illustrateur, ces deux pôles se livrent une sorte de compétition. Et si j'écris trop, l'illustrateur, au bout d'un moment, réclame son dû et je dois aussi dessiner davantage. Donc, pour compenser un petit peu, donc j'essaye de négocier entre ces deux polarités.
D'ailleurs, à partir de quel moment tu te mets toi-même à raconter des histoires ?
Oui, j'ai écrit des nouvelles depuis assez longtemps, mais à une cadence vraiment de mollusque, c'est-à-dire une ou deux au plus par année. Donc c'était vraiment pas très brillant comme rythme. Et puis j'ai aussi écrit des scénarios de bande dessinée qui n'attendent finalement que d'être dessinés. Voilà pour les histoires. Mais le processus Metakin n'entrait pas vraiment dans la même dynamique. Quand j'ai commencé à écrire Metakin, c'est tout à coup une voix comme ça de personnage qui s'est imposée à moi et que j'ai suivi et que j'ai plus pu lâcher. C'était un premier personnage, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis là, j'ai été dans cet univers pendant 8 ans. Je n'ai pas lâché cette écriture. Donc c'était un tout autre processus que ce que j'écrivais avant dans le domaine de la fiction.
Quelles étaient un petit peu les idées de base pour Metakin ? On parlera après de l'univers du médicament peut-être.
Oui. Alors oui, c'est vrai, il y a cette histoire de médicaments, mais il y a surtout la volonté de m'intéresser à un thème majeur qui finalement est derrière tout le roman, c'est celui de la conscience. Alors on peut parler de conscience dans le sens politique, c'est la conscience citoyenne, c'est la réaction qu'on peut avoir par rapport à l'emprise de certaines technologies ou de certaines manipulations de masse ou autres. Et ça peut être aussi la conscience au sens neuroscientifique du terme, c'est-à-dire quel est le processus de la conscience, comment la conscience se met en place. Et puis par là, le libre arbitre, à quoi sert la conscience, qu'est-ce qu'on appréhende exactement avec la conscience. Donc, c'était vraiment le problème presque philosophique qui m'absorbait. Mais comme je ne suis pas porté à la spéculation philosophique, j'ai préféré le prendre sous l'angle du sentiment vécu par plusieurs personnages. Et chacun y va de sa propre expérience avec sa propre conscience, son propre cheminement. Et j'ai écouté ces personnages, je les ai laissés parler, ils m'ont emporté dans cette aventure du début à la fin. Quoi, voilà.
Est-ce que tu peux nous donner peut-être un premier résumé du roman pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu? Il vient de sortir il y a quelques semaines, quelques mois.
Résumons. Mettons que c'est six personnages qui s'expriment plus ou moins à tour de rôle. Des fois, ils disparaissent quelques dizaines de pages, mais ils ne tardent pas à revenir, etc. Et ces personnages vivent tous une situation de départ qui est plus ou moins en relation avec la mise sur le marché, ou plutôt avec le succès commercial d'un médicament qui est cette fameuse Metakin. Metakin, c'est un médicament purement imaginaire, mais qui a quand même des racines dans la pharmacologie réelle. S'apparente un peu à la Ritaline, ce médicament que l'on donne aux enfants qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité. Et puis, il s'apparente aussi à une autre molécule qui s'appelle la kétamine. La kétamine qui est à la fois un anesthésique général, un hallucinogène à certaines doses, mais qui a donné aussi des résultats surprenants dans des champs de psychotropes aussi différents que celui des soins palliatifs et du traitement de la douleur, des traitements de la dépression, et plus récemment encore sur le stress et sur certains comportements. C'est une molécule très étonnante qu'on connaît mal, mais dont malheureusement le brevet est tombé dans le domaine public depuis assez longtemps, et que plus aucun fabricant, aucune industrie pharmaceutique ne s'y intéresse vraiment, parce que cette molécule ne rapporterait plus grand-chose à être commercialisée et surtout à être étudiée plus profondément. Les fonds pour l'étude de ces propriétés de ce médicament n'existent pas. Alors, l'intérêt de la kétamine et son rapport avec la métakine de mon roman, c'est que c'est une molécule qui semble agir comme une sorte de rebooteur de système qui remet en route tout le système cérébral. On a, ou en tout cas, des fonctions qui étaient totalement déficientes. Exemple, lorsque vous avez, par exemple, certaines personnes qui souffrent de douleurs chroniques ou très sévères, par exemple, des personnes qui souffrent, des patients qui souffrent de douleurs cancéreuses chroniques, et vous avez de temps en temps un phénomène qu'en médecine on appelle l'allodynie, c'est-à-dire une sorte de sensibilité à la douleur qui devient excessif. On n'arrive plus à le traiter avec les médicaments ordinaires qui sont la plupart du temps des dérivés de la morphine ou d'autres opiacés. Et le patient ne répond plus à ces médicaments-là et souffre le martyre. Et dans certaines circonstances, on a donné une ou deux doses de kétamine et la douleur, la sensibilité aux morphiniques, aux médicaments antidouleurs, est revenue chez ces patients. Et il a fallu quelques doses. Idem dans certaines dépressions sévères qu'on n'arrivait pas à traiter chez certains patients, pas toutes les dépressions, mais un certain profil de dépression. On avait essayé tous les antidépresseurs, tous les traitements, les électrochocs, etc. Ça n'agissait pas. Et curieusement, quelques doses de kétamine ont complètement réversé certaines de ces dépressions. Ça n'a pas marché dans tous les coups. Ça n'a pas marché d'une façon parfois juste pendant une période donnée. Mais chez certains patients, ça... Quelques doses ont suffi à avoir une activité antidépressive durable. Donc c'est une curieuse façon d'agir d'un médicament, c'est qu'il semble modifier quelque chose dans la chimie cérébrale et que cette modification est durable. Alors cette petite digression scientifique pour vous dire que la métaquine s'apparente aussi à la kétamine, elle s'apparente à d'autres médicaments. Et comme nous sommes en fiction et qu'en matière de science-fiction, on peut tout se permettre à condition d'avoir un certain rapport avec la réalité, là... J'ai exploité les effets du médicament en lui attribuant pratiquement, dans un premier temps, aucun effet secondaire. C'est-à-dire que c'est un médicament qui semble réaliser toutes sortes d'espoirs de la médecine et des patients, mais qui en même temps exerce très peu d'effets indésirables. Donc, il a un succès immédiat. Comme il est donné d'abord à des groupes d'enfants qui sont agités à l'école, qui ont des difficultés scolaires, les maîtres et les parents s'aperçoivent rapidement de l'effet du médicament et ils voient leurs enfants qui tout à coup deviennent hyper performants à l'école, attentifs comme jamais, dociles, gentils, polis et tout, toutes les qualités. Donc tout à coup c'est le médicament qui réalise tous les vœux. Et les adultes, voyant ces résultats, ne peuvent pas s'empêcher de s'y mettre aussi. Les profs se disent, maintenant qu'on a des classes de petits génies, on va devoir être à la hauteur, donc on va en prendre aussi. Les parents qui voient leurs enfants rentrer de l'école avec des résultats faramineux se disent, mais moi je vais utiliser ça pour pouvoir grimper les échelons de la hiérarchie de mon entreprise. Et puis ils le passent aux collègues, ils commencent à en circuler sous le manteau, et finalement toute la société en prend. Ça c'est le thème de base du roman. Ensuite... autour de les six personnages qui ont affaire aux médicaments sont pour la plupart des gens qui sont sceptiques par rapport à l'efficacité du médicament, voire même carrément opposés. Et puis vous en avez quelques-uns qui sont eux plutôt favorables, à commencer par le grand manager, product manager de la firme Globantis Pharma qui fabrique la métaquine. Et ces personnages vont se confronter d'abord représentant deux tendances nettement antagonistes. Et puis petit à petit, on va voir ces personnages se modifier leur position, évoluer, et il va se passer plein de choses. À part ça, on vit dans un futur relativement proche, avec des innovations technologiques diverses. Par exemple, on utilise maintenant, pour piloter les ordinateurs, qu'il s'agisse d'ordinateurs domestiques ou professionnels ou autres, on utilise des scanners cérébraux miniaturisés que j'ai baptisé Calotte, qui se posent sur le crâne des utilisateurs et qui remplacent clavier, souris, joystick et autres gadgets qui servaient d'interface entre l'ordinateur et l'opérateur humain, parce que le dispositif lit directement les consignes que vous voulez envoyer à l'ordinateur dans votre cerveau. Si vous êtes en train de dicter un texte, il vous suffit de penser aux lettres du texte que vous voulez imprimer pour qu'aussitôt le scanner détecte dans votre cerveau à l'emplacement voulu quel mot vous voulez imprimer et vous le voyez qui s'imprime à l'écran. Donc c'est devenu une sorte d'interface immédiate entre cerveau et machine. commence à y avoir quelques petits problèmes parce que c'est un lecteur parfait qui arrive à lire avec une précision incroyable les informations que vous avez dans votre cerveau, mais certains commencent à penser qu'il pourrait agir à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de lire très précisément, non seulement de lire très précisément les ordres que vous donnez à votre ordinateur, c'est votre ordinateur qui peut-être est en train de envoyer des instructions dans votre cerveau via la calotte. Alors ça, il commence à y avoir des doutes. L'autre problème qu'il y a, c'est que parallèlement à l'évolution de ces dispositifs qui remplacent souris, clavier, etc., vous avez l'arrivée sur le marché des ordinateurs quantiques. Je ne vais pas entrer dans les détails. Sachez simplement qu'un ordinateur quantique est encore un modèle. Il paraît qu'il en existe déjà quelques-uns qui travaillent en mode quantique. Mais pour faire court, les processus de calcul d'un ordinateur quantique ne sont plus binaires, c'est-à-dire que ce n'est pas oui ou non. L'ordinateur travaille, si vous voulez, dans plusieurs réalités à la fois. Et puis, lorsque la réponse tombe, l'état quantique s'effondre et donne un résultat. Mais entre le moment où l'ordinateur commence le calcul et où il rend son résultat, il travaille en mode quantique, c'est-à-dire dans une dimension qui n'est plus du tout la nôtre, où le temps et l'espace sont altérés, etc. Alors, sachant que de tels ordinateurs arrivent avec des systèmes qui semblent basculer dans des dimensions qui sont très peu connues et puis qui se jouent du temps et de l'espace, sachant que nous avons des calottes qui s'interfacent directement aux machines et que nos ordinateurs sont devenus quantiques, qu'est-ce que ça donne là, l'interaction entre le monde quantique et nos cerveaux? Voilà qui est intéressant. Et ce sont des pistes que j'ai explorées dans le roman. Je vous donne évidemment pas les réponses que j'ai trouvées ou inventées.
Quel est le mouvement, qu'est-ce que tu avais envie de faire? De travailler sur justement ces innovations technologiques où on sent bien qu'effectivement ton médicament, il y a peut-être une part de prise de distance par rapport à ça, parce que ça a l'air idyllique, mais ce ne sera pas tout à fait. Tu avais envie de travailler dans ces pistes-là?
Oui, alors soulignons déjà que le roman qui est un seul roman, mais qui paraît en deux tomes. Le premier tome s'intitule Indication, le second Contre-indication, et vous pourrez remarquer que le volume Contre-indication est un peu plus épais que le volume Indication. Je vous laisse découvrir pourquoi. Plus sérieusement, je pense que je me suis intéressé davantage aux retombées sociales et psychologique de mon invention médicamenteuse qu'aux seuls aspects techniques. J'ai toujours essayé de rendre les aspects techniques ou scientifiques les plus conformes aux découvertes actuelles de la science, mais ce qui m'intéresse au fond, c'est de poser le problème en termes de société et en termes de conscience. Alors en termes de société, c'est tout simplement que c'est bien joli que d'accuser l'industrie pharmaceutique de tous les maux, de manigances et de manipulations éhontées. C'est vrai, j'ai dénoncé pas mal de choses, mais je dirais que c'est peut-être la partie qui appartient le moins à la science-fiction, parce que toutes ces magouilles pharmaco-économiques, elles existent malheureusement déjà, et j'ai peu inventé en la matière. En revanche, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que face à ces promesses mirobolantes de l'industrie pharmaceutique, il y a un public, il y a des consommateurs, il y a des patients. Donc il y a une offre et une demande. Et les personnages du roman représentent un peu ces deux pôles, offre et demande. Et comment réagit l'un, comment l'un a besoin de l'autre et comment ils s'entretiennent mutuellement. Et c'est un peu cette dynamique-là, cette dialectique-là que j'ai explorée dans le roman.
Côté documentation, donne-nous un ordre d'idée, parce que écrire sur des médicaments, c'est pas anodin. Pareil sur des ordinateurs quantiques, ça veut dire qu'il y a un gros boulot de documentation avant Metakin, avant l'écriture?
Alors honnêtement, non. Parce que... Alors, les aspects scientifiques du roman, si vous voulez, c'est un peu à deux vitesses. Dans le domaine de la pharmacie, la pharmacologie, etc., c'est un domaine que je pratique dans mon métier. Donc, à l'hôpital, par exemple, je chapeaute un peu trois fois par année une importante réunion qui a lieu entre tous les médecins prescripteurs de nos hôpitaux et qui doivent choisir des médicaments pour le collectif d'hôpitaux dont on s'occupe. Et il y a une réunion qui s'appelle commission des médicaments et qui doit décider si on va prendre tel médicament ou tel autre, si on va accepter, si on va suivre la mode qui est de prescrire plutôt telle substance, si on va au contraire la refuser, si on va changer telle substance pour une autre, etc. Et chaque fois, il y a des questions d'ordre clinique qui se posent qu'il faut qu'on documente. Il y a l'aspect économique aussi, il y a l'arrivée de génériques pour remplacer des médicaments originaux, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en ligne de compte. Mais ce qu'il y a derrière, surtout, c'est toute une propagande de l'industrie qui essaye évidemment d'influencer les choix. Alors, ils visitent les médecins, ils nous envoient des piles de prospectus, etc. Et nous avons, excusez-moi, et nous avons évidemment beaucoup à faire pour démystifier une bonne partie de cette littérature de propagande. Alors, c'est comme ça que petit à petit, on devient méfiant un peu par rapport à certains arguments. Comment se font les biais au niveau clinique, quelles sont les techniques ou les choses peu claires ou peu scientifiques qui sont, comment on trompe son monde pour essayer de rendre un médicament totalement inintéressant et en faire une espèce de révolution pharmacologique. Et puis comment aussi après il faut convaincre les médecins qui ont été malheureusement séduits par cette propagande, il faut les amener à la raison et discuter calmement d'arguments réellement cliniques au niveau patient. Donc sur le plan professionnel, sur le plan des médicaments et de leurs effets, etc., c'est un peu mon pain quotidien, donc je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire en matière de documentation. Simplement suivre l'actualité du médicament, ça donne beaucoup d'informations déjà. Sur le plan des ordinateurs quantiques et de la physique, etc., j'ai procédé autrement. Là, moi, je ne suis pas physicien. Si vous me montrez une formule de physique quantique, j'y pipe pas un mot. Donc, honnêtement, ce n'est pas mon domaine. Mais alors que dans le domaine de la pharmacie et de la pharmacologie, je donnais des informations assez pointues sur des domaines où je pouvais vraiment préciser les choses d'une manière assez poussée. Sur le thème des ordinateurs quantiques, eh bien, je me suis surtout informé auprès de revues de vulgarisation scientifique, de bonnes revues de vulgarisation scientifique comme New Scientist, comme Pour la Science, Science et Vie, etc. Voilà mes sources en cette matière. Mais j'ai essayé de ne pas me poser en expert de cette matière-là comme je l'ai fait pour le médicament, toute proportion gardée. Je veux dire, j'ai simplement... Dans le roman, j'utilise une astuce pour parler de la physique quantique, par exemple, qui est celle de faire parler, quand il s'agit de donner une explication au lecteur, je ne vais pas, alors qu'en matière de pharmacie, je donne ces informations par la bouche de spécialistes qui s'expriment, de chefs de laboratoire, de spécialistes en pharmacologie qui utilisent des termes et qui ont des affirmations beaucoup plus pointues. Pour ce qui est de mécanique quantique, j'emploie l'astuce d'un site de vulgarisation pour enfants. Un des héros principaux, qui s'appelle Régis, est un espèce de chercheur en culotte courte, à ses heures perdues, et puis il fréquente sur le net un site de vulgarisation scientifique qui s'appelle Archie. Archie pour Archimède. Et Archie donne des explications sur la physique quantique qui sont à la portée d'écoliers de 12 ans. Et ben c'est mon niveau pour ces sciences physiques et autres. Mes compétences ne vont pas au-delà de ça. Donc je ne m'aventure pas sur des terrains trop glissants. Je laisse parler des vulgarisateurs qui s'adressent à des enfants de 12 ans. Donc peut-être que le lecteur est pris peut-être pour quelqu'un qui est... Mais ça me permet de régler l'astuce du degré de documentation et du degré d'autorité qu'on a quand on se lance dans des extrapolations scientifiques. Maintenant, après, je me permets quand même des coups de folie. Mais j'essaye toujours qu'il se passe dans le deuxième tome des choses hallucinantes. Mais même les choses les plus déjantées que je mets en scène, j'essaye toujours de leur laisser ce lien à la patte avec la réalité de la recherche scientifique et l'actualité scientifique. Jamais je me permets quelque chose de gratuit, vraiment. Les quelques fois où j'ai voulu inventer quelque chose de totalement fou, eh bien, peu de temps après, j'ai trouvé des articles dans des revues scientifiques ou de vulgarisation scientifique qui accréditaient mon hypothèse. Donc, je l'ai gardée. Voilà.
On a bien compris donc, que tu travailles dans l'univers du médicament et que c'est sans doute une source d'inspiration forte. Est-ce que c'est facile d'écrire de la fiction à partir justement d'éléments de son boulot, d'être à la fois dedans, dehors, tu vois, surtout sur des choses qui ne sont pas forcément des aspects forcément positifs de l'industrie pharmaceutique.
J'aurais pas voulu écrire que là-dessus. C'est un peu un point de départ. L'autre façon de répondre serait de dire que ça me permet aussi une réflexion sur mon activité de tous les jours. Ça permet aussi de prendre quelques positions, d'informer aussi les gens autour de moi de certaines choses, de certaines problématiques. C'est quand même. Je voulais pas m'abstraire totalement de ce domaine où j'exerce quotidiennement.
Parle-nous un peu de ton travail d'illustrateur, parce que du coup, il y a une expo autour du roman. Pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, cette expo, elle est comment ? Elle est dedans ? Elle est à côté de l'intrigue principale ? Comment tu l'as faite ?
Alors, elle rassemble en fait tout un matériel graphique. Comme en même temps que j'écrivais le livre, je dessinais, il y a eu des projets de couverture, il y a eu des projets d'illustration. J'ai commencé par essayer de donner... une apparence visible, une apparence dessinée à des personnages secondaires du roman. Et après, je me suis attaqué aux personnages principaux. Et puis, ensuite, j'ai commencé à vouloir créer des objets, créer des logos de la firme pharmaceutique Globantis Pharma. Je me suis amusé à faire un site pseudo-pharmaceutique d'une pseudo-multinationale vantant ses médicaments. Donc, je me suis vraiment inspiré de ce qui se faisait dans la réalité, à tel point que même des confrères ont cru que c'était un vrai médicament. Mais il y a des journalistes aussi qui ont cru que c'était qu'il y avait vraiment que l'industrie sponsorisait des tests scolaires pour que le médicament soit prescrit plus souvent à leurs élèves et qui ont fait mine d'alerter la presse au sujet d'un tel scandale. Donc ça a très très bien marché. Et ça, c'est mon côté farceur. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Donc et puis après, j'ai accompagné le roman de dessin, mais beaucoup de choses sont venues un peu à posteriori. J'ai d'abord écrit et ensuite j'ai illustré. Et puis parfois j'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que j'ai d'abord dessiné un tableau, quelque chose de très élaboré, et puis après, pour tromper le spectateur, j'ai dessiné les esquisses à partir desquelles j'aurais produit ce tableau. Donc, ou bien par exemple, si vous voyez, vous n'irez pas le répéter, hein, mais si vous allez voir dans les vitrines, il y a des carnets de croquis. Eh bien, ces carnets de croquis, ils ont chacun 50 pages, mais ils sont ouverts à une page centrale. Mais en fait, il n'y a que cette page-là. Non, fermé. Mais il y a quand même 200 dessins originaux, quand même. J'ai pas trop triché. Et puis il y a aussi le fait. Tu me demandais si c'était autour du livre ou dedans. Alors il y a une partie des illustrations qui sont effectivement dans le livre, mais il y a aussi une partie des illustrations qui sont autour du livre. Et quelque chose que je me suis amusé à faire, c'est sachant que j'étais aussi illustrateur, les premières personnes qui m'ont fait dédicacer le livre ont fait un petit dessin. Alors j'ai fait un petit dessin après, je me suis dit, mais tiens, on va faire quelque chose. On va représenter chaque fois un personnage qui est un personnage de jeune, donc d'enfant ou d'adolescent, susceptible d'avoir l'âge et les conditions pour recevoir de la métakine. Alors, est-ce qu'il en reçoit vraiment ? Est-ce qu'il devrait en prendre ? Est-ce qu'il en prend ? Est-ce qu'il ne devrait pas en prendre ? Ça, c'est le lecteur qui décide. Mais chaque fois, je dessine un personnage qui pourrait éventuellement vivre à l'époque de métakine, du roman, qui est dans un futur proche et qui peut-être ferait bien de prendre de la métakine ou ferait bien de ne pas en prendre. Ça, c'est, mais c'est, alors, à chaque fois, il y a un nouveau personnage qui surgit comme ça, à chaque dédicace. Je les photographie, j'en fais une galerie virtuelle et puis aussi, je les reproduis sur papier après. Et c'est les petits personnages qui sont éclairés dans l'exposition par des petites diodes bleues aujourd'hui. Demain, ça changera de couleur. Et qui sont un peu le fil conducteur de l'exposition. Mais j'en ai fait des expositions en plein air aussi. Je me suis amusé à... Et donc ça fait un monde, un univers autour du livre, en quelque sorte.
Parle-nous de ton travail d'illustrateur et de ton travail de romancier. Dans tout ce que tu nous dis, on a l'impression que tu as dessiné ou tu as illustré après l'écriture. Mais est-ce que tu es aussi pendant? Et quel est le lien entre ce travail de romancier et ce travail d'illustrateur?
Ben, des fois, j'écoute avec beaucoup d'attention comment les écrivains procèdent pour écrire leurs livres, particulièrement ceux qui écrivent des gros pavés avec 50 personnages et puis qui doivent maîtriser tout ça dans des univers de fantasy, par exemple, avec des... Et puis, une distousse, on fait des plans, on fait des cartes, on fait des... Alors, moi, j'ai essayé de faire ça, des plans, des horaires, etc. Mais... emporté par l'écriture, les personnages, etc., je me suis aperçu que je tenais jamais mes horaires, je tenais jamais mes plans, j'étais jamais au bon endroit dans la carte. Donc j'ai préféré écrire et puis après faire les cartes et les horaires. Alors effectivement, il y avait des incohérences, j'ai dû rectifier une ou deux choses, mais et puis aussi dans le plan de l'écriture, quand on écrit en tant qu'auteur, on connaît bien ses personnages, on les suit, on sent qu'ils vont faire telle chose à tel moment, on sait qu'ils ont fait telle chose dans leur passé proche ou lointain, on a tout ça en tête. Mais le lecteur, lui, quand il ouvre le livre, il n'a pas nécessairement le temps de mémoriser toutes ces informations. Parfois, par exemple, on fait des remaniements de texte, on passe un chapitre après l'autre, on change, etc., et on perd le fil du récit. Et où on abandonne un personnage un peu trop longtemps. Et c'est là que le travail de l'éditrice est particulièrement important. C'est qu'elle a ce regard du lecteur qui, lui, a besoin d'être informé en permanence sur ce qui se passe dans le livre. Nous, dans notre tête d'auteur, on connaît tout ça. Mais lorsque on n'arrive pas toujours à se mettre dans la tête du lecteur. Et ça, c'est éminemment important. Et ces incohérences ou ces manques d'informations sur les plans, sur les cartes, sur les lieux, etc., et parfois, il faut les rajouter après. Alors, le dessin et l'illustration peuvent aider un peu à remettre un peu d'ordre dans ce grand labyrinthe.
Ouais, si je comprends bien, c'est l'écriture qui précède un petit peu l'illustration, en tout cas dans le cas de Métakine.
Oui, en l'occurrence, oui. Dans le domaine de l'écriture de bande dessinée ou de scénario de bande dessinée, ce serait peut-être un peu plus en parallèle, un peu plus... Même l'image peut parfois... Maintenant, par image, on peut aussi entendre images qui nous tombent comme ça du ciel. Il y a des personnages qui sont sortis d'abord d'une vision, peut-être d'un rêve ou d'une invention purement visuelle. Le visuel était peut-être là, mais pas l'image sur le papier.
Tu nous as apporté un petit diaporama. Alors peut-être qu'il faut que tu te lèves pour nous le...
Oui, alors c'est des images que vous pouvez aussi voir soit en original, soit en soit en infographie dans l'exposition. Et puis, honnêtement, je ne me rappelle plus dans quel ordre je les ai mises. Donc, s'il y a un commentaire à faire, je le ferai à mesure que ça passe. Oui, alors il y a des bons et des méchants. Hein. Mais finalement, c'est toujours intéressant que quand on a un vilain comme celui-là, hein, c'est de le rendre affreux, mais vraiment accuser tout, qu'après montrer qu'il n'est pas méchant pour les raisons qu'on attendait. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est aussi comment les personnages évoluent. Vous avez des personnages qui paraissent très gentils, puis en fait sont de dangereux psychopathes. Ou le contraire, c'est ça qui est amusant. Alors, dans la représentation, on essaye soit d'un gentil, soit méchant, mais après, il faut les travailler. Et ce travail sur la psychologie des personnages, elle se fait... peut-être plus au niveau de l'écriture que au niveau du dessin.
Tu peux nous dire qui c'est, peut-être?
Ah oui, ça c'est l'abbé Schubelbach. L'abbé Schubelbach a eu au moment où se passe le récit, il a un passé un peu lourd, parce qu'il a tenu un orphelinat de garçons. Et puis, curieusement, à la fin de sa carrière dans cet orphelinat, il y a eu un suicide d'enfant. Et puis, il s'est avéré à ce moment-là qu'il y avait plein d'horreurs dans cet orphelinat. Mais les horreurs sont pas vraiment celles qu'on pense. Voilà.
Oui, parce que l'abbé est enfant tout de suite.
Voilà. Hop, le chat de Schrödinger. Vous connaissez certainement ce fameux paradoxe du chat à la fois mort et vivant dans sa boîte. Alors ça, c'est un leitmotiv aussi du roman. C'est que la réalité, quantique, elle est à la fois oui et non, mais dans un même plan. Alors comment nous, on se situe par rapport à cette réalité ? Est-ce qu'on en est totalement étranger à cette réalité quantique ou des parties de notre cerveau y accèdent ? Ça, c'est intéressant. N'est-ce pas ? Une autre héroïne importante, c'est Clotilde. Clotilde, elle a vu, c'est une politicienne, un peu larguée par son parti parce qu'elle fait des choses de manière très indépendante. Mais en particulier, elle s'oppose avec vigueur à l'emploi de la pharmacologie à l'école. Alors évidemment, au moment où tout le monde se met à la métaquine, elle tombe plutôt mal. Et puis électoralement, c'est pas très bien porteur. Donc elle a quelques problèmes. Elle a des problèmes conjugaux, elle a des problèmes personnels que je vous laisse découvrir. Alors lui, c'est le grand manager de Globantis Pharma. Alors c'est un sérieux. Alors vraiment, on ne l'a fait pas. Hein. Il est vraiment très très imbu de sa personne et très convaincu de sa mission. Que le médicament qu'il promeut est vraiment une panacée, est vraiment quelque chose qu'il promet. Et puis alors, on le voit d'abord sous un jour pas très favorable, mais après il évolue. Dans quel sens ? Je ne vous dis pas. Alors ça, c'est l'énigme du roman. Je ne dis pas qui c'est, mais je vous dis entre parenthèses qu'il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé, et qui s'exprime régulièrement, qui est un septième personnage, et c'est un lanceur d'alerte. Ce lanceur d'alerte, c'est Ferdinand Glapier. C'est un personnage qui est absolument insaisissable, qui sévit régulièrement sur le net pour dénoncer des scandales, pour dénoncer des horreurs, des manigances de l'industrie, des fautes politiciennes, des scandales de mœurs, etc. Et régulièrement, il sévit sur le net et il balance toutes les vérités qu'il n'est pas bon de savoir. Et c'est un flux continu de dénonciation. Et son slogan, c'est de dire « Le monde est mensonge ». Parce qu'on vous trompe sur tous les fronts. Et chaque fois, il dit la vérité, lui. Et c'est ça qui est intéressant. Mais quelle vérité dit-il ? Et comment le prendre ? Et oui, c'est un personnage intéressant que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai bien laissé s'exprimer, celui-là. Alors, il se passe des choses étranges après avec ce personnage. Alors lui, c'est un gentil. Est-ce qu'il faut en dire plus ? Ouais. Non, dans le fond, c'est un pauvre type. On prend un peu pitié de lui. On ne sait pas si... En fait, il est quand même un peu psychopathe, mais un gentil psychopathe. Il a des instincts meurtriers, mais gentiment. C'est pas... Mais des instincts qui sont bien prêts de se réaliser. Donc pourquoi il en vient là ? Eh bien parce que sa situation personnelle devient intenable. Et puis accessoirement, c'est le père adoptif de Régis, qui est ce jeune de 12 ans qui a des problèmes scolaires et à qui on veut prescrire de la métaquine, et qui est un petit peu le point de départ du roman. Alors ça, c'est un tableau dont on parle dès le début du roman. Alors, je vous laisse dans l'incertitude la plus totale, parce qu'il semblerait que ce soit un tableau de jeunesse de Hopper. Hopper, le fameux peintre naturaliste américain. Et il a mis dans ce tableau une série de personnages. Vous voyez, c'est assez maladroit. C'était vraiment ses débuts. Hein, vraiment, quand il débutait, vraiment, il a fait des choses bien mieux après. Mais y a les experts en matière d'art s'empoignent au sujet de la véracité de ce tableau. Est-ce que c'est vraiment du Hopper? Alors, il y en a qui ont vu que les couleurs du fond, les trucs, etc., c'était vraiment les mêmes couleurs qu'il employait dans sa palette ultérieure, etc. Il y a un débat au niveau de l'art incroyable. Mais ce qui est intéressant et qui nous intéressera plus particulièrement, c'est que chacun des personnages ici ressemble curieusement à un des personnages du livre. Alors, par exemple, le garçon, là, ça pourrait être Régis. La fille, là, ça pourrait être Angela. Et ici, ça pourrait être Clotilde. Et curieusement, chacun se retrouve un peu dans ce tableau. Pourquoi ? Je vous pose la question. Hein. Et puis, curieusement, on retrouve des mêmes personnages sur une très vieille photo à moitié jaunie. Et comme on a vu tout à l'heure, les personnages se tournaient vers une sorte de soleil couchant. Ici, on les voit se tourner vers une espèce de flou, comme ça, de lumière, de surexposition. Il semble même qu'on voit ici une créature ailée. Puis c'est apparemment une photographie du début du XXe siècle. Et puis, curieusement, on pourrait identifier les personnages qui sont là-dessus comme des personnages du livre. Mais comment ça se fait qu'ils sont là alors que cette photo date de plusieurs... d'un siècle et plus auparavant? Pourquoi, hein, je me demande bien. Oui, alors lui c'est juste que parmi les tas de trucs qu'il y a dans le livre, il y a aussi un produit miracle chimique qui permet de taxidermiser immédiatement les vous savez, plutôt que d'empailler les animaux pour les rendre conservés sur des années après leur mort, eh bien, il existe un produit chimique qu'on peut utiliser sous forme liquide et qui instantanément, une fois qu'on traite leur organisme avec cette solution, eh bien, ça les rend totalement presque aussi vrais que s'ils étaient vivants. Et puis ça les conserve comme ça sur des années. L'ennui, c'est que ce produit, qui a été largement utilisé pour d'autres utilisations, entre autres comme isolant thermique, eh bien, s'avère qu'il est très délétère et entraîne pas mal de problèmes, en particulier pulmonaires, chez les gens qui l'ont approché de trop près. Et c'est un des scandales que dénonce Ferdinand Glapier, parce que comme avec l'affaire de l'amiante, l'industrie a longtemps caché, a longtemps nié les effets indésirables, les effets toxiques du produit. Elle, c'est Clotilde. C'est une neuroscientifique très cartésienne, à qui on ne la fait pas, à la retraite. Mais elle se prend d'amitié pour Régis et puis elle essaye de le soutenir. Elle a quelques problèmes d'âge, elle a quelques problèmes de santé. Et puis, c'est pas Clotilde, c'est Sophie, pardon. Clotilde, c'était avant. Merci, Mireille. elle fait...
Quand on vous dit que l'éditrice doit remettre l'auteur sur le droit chemin de temps en temps.
Voilà. Alors, elle est hyper scientifique, hyper rigoureuse, mais en même temps, elle est très éthiquement irréprochable. Elle se prend d'amitié pour Régis. Elle voit quel danger peut représenter la métaquine pour lui. Donc, elle le soutient. C'est sa voisine d'en dessus. Donc, ils sont très amis, elle, la vieille dame, avec Régis. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elle fait quand même des cauchemars. Et il y a une irruption de l'irrationnel dans cette rationalité scientifique qui va modifier pas mal de paramètres en cours d'écriture, en cours d'intrigue. Alors ça, c'est encore un tableau très curieux. Celui-ci, il date du 19e siècle. Et c'est une procession de personnages qui vont à la rencontre d'un ange. Alors pourquoi cet ange, pourquoi ces personnages? Puis il y a toujours les mêmes, hein, c'est toujours les personnages qu'on pourrait identifier à ceux du livre. Mais c'est encore 100 ans auparavant. Donc ça devient de plus en plus énigmatique, n'est-ce pas? Voilà Régis, en tout cas une partie de Régis. Et puis comme il aime bien rêver à toutes sortes de créatures, comme des enfants de son âge, il a tout un bestiaire de dinosaures, de créatures plus ou moins. Il aime bien la science, mais il aime aussi bien la fantaisie. Il aime bien rêver. Et c'est cet accès au rêve et à sa propre fantaisie dont il a peur s'il prend la métaquine, qu'il soit coupé de sa propre fantaisie et de son imaginaire. Ça, c'était un projet de couverture qui fait assez fantasy, sauf que l'espèce de donjon en suspension dans l'air est à forme de gélule, comme celle de Metakin. Et puis finalement, on n'a pas retenu ce projet parce qu'il donne une connotation peut-être un peu trop fantasy à un roman de science-fiction très proche de la réalité scientifique. Donc il y a eu une discussion autour de ces couvertures, mais voilà, c'est un projet qui n'a pas été retenu, mais sur lequel j'avais travaillé. Ça, c'est le logo de Globantis Pharma. Donc, juste si vous voyez ce logo-là, sachez qu'ils ont une panoplie de spécialités pharmaceutiques très intéressantes. Puis voilà, ça c'est aussi fait du packaging. Hein. Vous pouvez voir dans l'exposition, il y a des emballages de Metakin, des ampoules de Metakin, des perfusions de Metakin, pas des suppositoires. J'ai pas oublié les suppositoires. Ça, c'est quelques-uns des petits personnages que je dessine en guise de dédicace et qui nourrissent un peu cet imaginaire autour de Metakin. Alors ça, c'est deux pôles. On retrouve l'ange, le monstre. Il y a aussi des créatures qui appartiennent plus au monde surnaturel et au monde fantastique. Mais c'est des créatures qui, finalement, ont quand même une raison d'être qu'on dira rationnelle et peut-être même scientifique. Et ça, c'est la dernière scène du livre. Hein. C'est le spoil absolu, là. Hein. C'est la dernière scène. Mais pourquoi on en arrive là, hein? Eh bien, réponse en 850 pages.
Voilà. Hop, et voilà. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Où je pose la dernière question, l'ultime question à François. Est-ce que quelqu'un veut prendre de la métaquine?
Bonjour. Je voudrais savoir, vous avez mis combien de temps pour écrire le livre?
Alors, j'ai pas fait ça à plein temps, donc je tiens bien à le préciser. Mais sur la durée, ça m'a pris 8 ans. Commencé en 2007 et puis c'est sorti voilà, à peu près. L'écriture, ça a 8 ans. Ouais.
Oui, merci. Quelle est la posologie pour lire ce livre? Matin, midi et soir, avant, pendant, après les repas?
Alors, j'aurais quand même... je pense qu'il est mieux, à mon avis. Hein, c'est plus... Il y a eu ce qu'on appelle des études post-marketing. Hein, une fois que le produit est lancé, après, on regarde dans les populations de patients qui ont dû prendre le produit, qu'est-ce que ça a fait de bien ou de mal et s'il faut rectifier peut-être la posologie. Alors... ces réactions de lecteurs, en l'occurrence, puisque c'est eux qui ont été traités à la Metakin, m'ont permis de penser que je pense que c'est mieux de faire un traitement continu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre des toutes petites doses chaque soir, comme ça, quand on est bien fatigué. Il vaut mieux se choisir une ou deux semaines de vacances et puis programmer ça sur un traitement comme ça en continu sur une courte période. C'est mieux que de faire des toutes petites doses sur des semaines et des semaines et des semaines. Ça dilue un peu l'effet du principe actif.
Est-ce que ça veut dire qu'en cas de crise, il y aura une suite?
Oui. On peut toujours relire deux, trois fois le bouquin. Mais... il n'y aura pas de suite vraiment à Metakin. Mais il y aura autre chose. Globantis Pharma a bien encore des produits dans le pipeline, comme on dit. Ouais, ils vont certainement sortir quelque chose de bien sur le marché, peut-être. Je ne sais pas d'aussi bien, peut-être que Metakin, je ne sais pas, mais ils y songent.
Est-ce qu'il y a encore une question?
Alors, on a la chance d'avoir l'éditrice. On peut peut-être lui demander comment vont les éditions Atalante après avoir publié ce livre-là. Et qu'est-ce qui fait que ce livre-là a trouvé de l'intérêt à leurs yeux?
Ben,
Mireille Rivalan, pardon, hein, directrice.
les éditions La Talente ont été soignées longuement à la Métaquine, il faut le dire, puisque je pense que la première lecture, Yann, qui s'occupe des choix éditoriaux avec moi, date de quand ? Oui, de... Voilà, donc nous, il y a eu...
J'avais envoyé une première version, et puis, quelques semaines après, effrayé par mon geste, j'ai dit non, je retire cette horreur.
Oui, c'est vrai, tu as fait un premier envoi, mais que Yann avait quand même regardé avec intérêt, et tu nous as refait un envoi, et donc ça a duré assez longuement, et c'est vrai que nous, c'est un traitement qu'on a trouvé fort bénéfique, tant pour notre intérêt éditorial que pour notre intérêt personnel. Je pense. C'est un livre qui nous a totalement enthousiasmés, qui, je pense, marque quelque chose dans l'histoire de la science-fiction, par sa façon de s'y prendre, pour deux raisons. Hein, c'est que c'est une œuvre littéraire et une œuvre de science-fiction. C'est-à-dire que si vous avez la chance donc de prendre de la Métaquine, vous verrez que vous prenez une leçon sur l'ensemble de la médecine, mais vous prenez une leçon de littérature, et la forme qu'a adoptée François nous a, je pense, encore plus convaincus que le sujet. Bien sûr qu'on aime ces sujets de science-fiction là, mais cette forme là, cette façon de s'accaparer des personnages absolument fabuleux et de nous y emmener avec une contrainte littéraire que vous ne ressentirez pas, mais qui est là, hein, qui est d'épurer au maximum le rapport à tout ce qui peut être une sorte de déchet de langage, nous a absolument fascinés, occupés du coup, parce que, voilà, comme disait François, quand le niveau est quelque part, il faut le maintenir. Donc on avait un rôle à jouer dans l'élaboration, je dirais, du livre, mais pas dans sa conception première, bien sûr. Et puis, ça a été des échanges nourris avec François. Pour les couvertures, c'était sympa que tu redises que toi, effectivement, tu avais des idées, ou combien, sur les images de ce livre et comment on a choisi tous ensemble de s'en affranchir complètement. Je pense qu'on n'aurait pas le même plaisir à regarder cette exposition absolument magnifique si on avait des livres qui ressemblaient. Je crois vraiment que ces livres-là racontent avec beaucoup d'humour et de pertinence ces couvertures, ce que tu as décrit dans ton parcours, dans ce que contient ce livre. Donc voilà, et moi aussi je veux bien que Métaquine, que Globantis, pardon, et d'autres molécules à mettre en œuvre.
Hein. On va remercier François, on va remercier Mireille. Merci à tous.
Merci.
Donc il y a l'exposition, il y a le livre, il est tout de suite en dédicace. Et là tout de suite on a une interro sur l'Uchronie. Merci à vous.